Ça y est, c'est la semaine de la langue française pour en faire la promotion sans la brader. Une seule semaine, mais c'est tous les jours que l'on parle, matin et soir, depuis des années, blablabla, que dis-je, des siècles, en français, parmi d'autres, pour raconter la vie en francophonie.
Pascal Paradou.
En cette semaine de la langue française, initiative créée voilà 30 ans, retour à Villers-Cotterêts, le château de François Ier où fut édictée l'ordonnance du même nom et qui abrite depuis novembre dernier la Cité internationale de la langue française. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Philosophe, membre de l'Académie française et co-commissaire du parcours permanent de cette cité, dois-je dire que c'est un beau succès public. Je crois que beaucoup de monde vient à la Cité internationale et qu'il s'agit d'un parcours très interactif, très ouvert sur la francophonie et sur la diversité culturelle. C'était bien là votre intention, ce n'est pas que ma perception.
C'est notre intention en effet, et en particulier celle de Xavier Nord qui était le commissaire principal. Donc l'idée c'est qu'une langue n'est elle-même que s'il y en a d'autres. En fait, je sais que je parle français seulement parce que je parle aussi d'autres langues et que je sais qu'il y a d'autres langues. Voilà, le français, c'est une langue entre autres et c'est la nôtre en l'occurrence.
Le parcours commence sur le thème du français, langue de l'amour, et se termine avec l'ordonnance de 1539, dont il faut quand même peut-être rappeler les termes, Barbara Cassin. L'ordonnance impose que tous les actes de justice soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois, on disait comme cela à l'époque, et non autrement.
Oui.
Quelle est la portée de cette ordonnance pour vous ?
Elle est considérable, puisqu'il s'agit qu'on comprenne ce qui vous arrive. Au fond, c'est ça l'idée. C'est qu'au lieu d'un latin, d'ailleurs un peu de cuisine, si j'ose dire, en tout cas de basoche, des clercs, qui était la manière dont la langue dans laquelle les jugements étaient rendus, ça sera rendu en français. Bon, en langue maternelle françoise et non autrement, comme vous dites. Donc, c'est fait pour que ce soit clair et présent pour tous, pour tous ceux qui sont jugés. Donc, c'est essentiel. Et je crois que nous en sommes encore là. Aujourd'hui, c'est encore en vigueur, cette ordonnance-là. Et elle a été ravivée par des choses comme la loi Toubon, à l'intérieur même de notre Constitution, la langue de la Constitution, et c'est le français.
Article 2.
Article 2. Bon. Ceci dit, il faut bien voir qu'à l'époque de François Ier, tout le monde ne parlait pas français. Dire que beaucoup parlaient des langues régionales, ce qu'on appelle aujourd'hui les langues régionales, pas des patois, enfin bon. Et donc, l'un des points, comme toujours, quand on parle langue, on parle politique, l'un des points suivants, c'est l'abbé Grégoire, la Révolution française, et éradiquons les patois.
Mais au moment de Villers-Cotterêts, 1539, on est... pas à l'élimination des patois, est à la création d'une unité linguistique sur l'ensemble du territoire, autant que faire se peut, en tout cas pour les actes administratifs.
Absolument. Et aussi, comme dans la mesure où, simultanément, vous avez les poètes, comme Ronsard, du Bellay, et vous avez aussi les traductions de la Bible, vous avez les trois ingrédients qu'il faut pour qu'une langue s'installe vraiment. Traduction de la Bible en français, Bible protestante, Bible catholique, et puis évidemment la Renaissance et les poètes.
Et puis le droit, cette ordonnance ouvre le droit à l'écriture aussi, c'est-à-dire que tout
Absolument.
Acte doit être écrit et pas simplement proféré comme ça entre deux portes, si j'ose
Absolument.
Dire.
Et d'ailleurs, l'ordonnance elle-même a été immédiatement diffusée, écrite et diffusée en des milliers d'exemplaires.
On le rappelait, le français est la langue de l'amour, I love you, Barbara Cassin, mais c'est aussi la langue du droit, et c'est ce que vous avez rappelé lors d'une rencontre ce week-end à la cité de Villers-Cotterêts, c'est l'article 110 de l'ordonnance. Ordonnance qui sert, dites-vous, mais c'est prouvé, de base à la Cour européenne de justice de Luxembourg. Ça veut dire que le français n'est pas simplement la langue de la France, de la Belgique et du Luxembourg, mais plus largement ?
Ça veut dire d'abord que le premier geste de l'ordonnance, c'est qu'on comprenne ce qui vous arrive. Qu'on comprenne et que ça vous arrive dans votre langue.
Donc ça, c'est l'esprit de Villers-Cotterêts.
Ça, c'est l'esprit de Villers-Cotterêts. Et c'est aussi l'esprit de la cité de la Cour de justice européenne de Luxembourg, puisque vous introduisez une langue dans l'une des 24 langues, par exemple vous l'introduisez en roumain, eh bien le prononcé qui fera foi à la fin, ce qui sortira, qui fera foi comme jugement, il sera en roumain. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas traduit dans toutes les langues. Il sera traduit dans toutes les langues européennes, bien sûr. Et c'est seulement quand il sera traduit qu'il sera en effet répertorié comme faisant foi. Mais le prononcé qui fera foi, c'est celui de la langue du cas. Et c'est très intéressant, puisque ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ambiguïté du genre. La résolution des Nations Unies, disant par exemple qu'il y aura évacuation des territoires occupés. En français, des territoires occupés, ça veut dire ça veut dire tous les territoires occupés. Ça a été aussitôt traduit en anglais par « occupied territories ». Mais là, ça veut dire des territoires occupés, certains territoires occupés. Ça ne donne pas la même Palestine. Donc, cette ambiguïté-là, elle est terrifiante. Il faut un prononcé qui fasse foi, et un seul. Et en l'occurrence, c'est celui du cas. C'est celui de la langue du cas.
Mais entre-temps, le français a été la langue de délibération.
Voilà. Alors, non seulement la traduction est partout, c'est-à-dire qu'on traduit la demande et on traduira le jugement aussi, et on traduit les plaidoiries. Mais ce qui se passe à l'intérieur du moment, enfin si j'ose dire, dans le moment où les juges se réunissent, les juges de toutes les nations européennes se réunissent, eh bien ils se parlent français et sans interprète. Donc le français est la langue du droit. On a adopté le droit romain et on a adopté la langue française du droit romain.
Donc cela suppose des juges qui parlent à minima deux langues, leur et le français parfaitement. Est-ce que cette disposition, on le doit au père fondateur de l'Europe ou à la qualité propre de la langue française, Barbara Cassin?
Je pense que la langue française est à nul autre pareil, mais que chaque langue est à nul autre pareil. Et donc, je ne dirais jamais que la langue française, c'est la langue humaine, selon la terrifiante prétention qui a été la nôtre pendant un bout de temps.
Pendant la colonisation.
Pendant la colonisation aussi, et pas seulement. Donc
c'est plutôt pour des raisons politiques. C'est parce que les pères fondateurs sont francophones et que trois pays,
ils le sont.
Les pays fondateurs
et
sont
puis,
francophones.
C'est aussi à cause du droit romain. C'est vrai que il est particulièrement, disons, la langue française est là particulièrement affine au droit romain. Certainement plus que la langue anglaise qui fait de la common law et probablement plus que la langue allemande.
En français, dans le texte, où l'on découvre aujourd'hui que cette langue se parle partout, avec appétit et même hors zone francophone, c'est ailleurs. Ailleurs, à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec Pomme Madejian, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes directrice Asie du réseau Rencontre des auteurs francophones et rédactrice en chef de la Gazette, qui est le seul journal en français du pays. Et à ce titre, vous organisez le premier salon du livre francophone. Donc, on parle et on lit en français en Malaisie. Dans quelle proportion ?
Écoutez, c'est toujours difficile de le dire, mais on estime à 30 000 personnes et 30 000 locuteurs en français en Malaisie, avec évidemment des niveaux différents, mais voilà. 30 000 personnes qui savent à peu près le parler.
Et c'est une langue d'usage pour le boulot, pour l'économie, pour les voyages, ou c'est une langue d'amoureux ?
C'est ni l'un ni l'autre, j'en ai peur. C'est quand même une langue qui est très très peu parlée ici. La francophonie, vous savez, n'est pas très développée en Asie.
Pour autant, vous avez décidé de faire un salon du livre. Une seule journée, mais quand même un salon du livre. Pour quelle raison ?
Absolument, parce que je crois très fort au pouvoir des mots, au pouvoir de la littérature. J'avais eu une première expérience réussie au Vietnam il y a 3 ans, où j'ai lancé le premier salon du livre francophone d'Ho Chi Minh, qui continue d'ailleurs, qui en sera à sa 3e édition cette année. Et donc, j'essaye d'essaimer comme ça et de faire un petit peu partout la même chose dans les différents pays d'Asie du Sud-Est où je vais.
Alors, ce salon se tiendra sur une journée avec énormément de débats et de rencontres sur des sujets très divers. J'ai noté la forêt sacrée, la cuisine, les arts martiaux, comment se faire éditer ou les nouveaux mots malais et français. J'imagine que tous ces thèmes ne doivent rien au hasard. Ils rencontrent un intérêt de la part des Malaisiens.
Absolument. L'idée, c'était à la fois d'utiliser des thèmes qui puissent faire des ponts entre l'histoire française et l'histoire malaisienne, ou en tout cas des éléments communs qu'on puisse avoir ensemble, par exemple la gastronomie. C'était aussi l'idée d'utiliser évidemment les compétences des auteurs qui sont présents et qui ont quelques marottes comme ça, qui ont envie de les partager avec les gens qui sont susceptibles de venir ce jour-là.
Quels sont les auteurs lus en Malaisie, les auteurs, je veux dire, français et francophones ?
Écoutez, ça dépend à qui vous vous adressez, mais en fait, tous les francophones, on va dire internationaux francophones et français, ont tendance à lire la littérature française moderne actuelle. Les Malaisiens lisent en général plus des grands classiques, puisqu'ils sont en train d'apprendre, si vous voulez, la langue en général, donc ils se tournent plutôt vers les classiques. Et certains auteurs, notamment Chilico et Tachao, ce sont les deux, on va dire, têtes d'affiche auteurs malaisiens les plus connus, ils sont traduits en français. Donc c'est pour ça que pour ceux qui sont francophones ou qui sont en train d'apprendre la langue française, c'est assez idéal pour eux de lire ces auteurs-là.
Merci Pomme Madanjian. Le Salon du Livre francophone de Malaisie se déroulera donc ce dimanche 24 mars à l'Alliance française. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Bitch, éteins la radio, fais tourner mon son. Je vomis ma partie sombre sur la partition. Orateur, Big Noise sur du Pink Floyd. Traduction, novateur dans pure tradition. Le truc est malsain, le truc est hardcore. Ils ont shooté Martin, ils ont shooté Malcolm. Je me confie ce matin devant le cappuccino. Mon autoportrait sur le punching ball. Un chino comme latino avec Reda. Rap de francophone stylé comme québécois. Grand-mère m'a dit je t'aime, tu as mes gènes. Mais on dirait que t'as de gêne de manger avec les doigts. J'y repense et puis j'oublie. J'y repense et puis j'oublie. J'ébarque tardivement comme post-scriptum, médecine de Kingston. Je m'endors activement, j'entends le chant du coq et du George Clinton. Petit passage à vide comme pour Kingdom. Comme je suis blues d'origine, vont tous rapper banal. Sont tous dans cuisine comme s'ils s'appelaient Brian. Est-ce que le bon payeur graille? Si c'est le bien contre le mal, alors que le meilleur gagne. Robocop veut croiser le fer. Je décolle au score, mon horoscope raille. Troisième guerre, c'est leur grisaille. M'a dit le marabout, je réinvente pas la roue, juste un meilleur design. Et sur Protect Your Neck, on se brise le cou. Car mieux que rien, c'est pire que tout. Je veux que le bien. Grand-père m'a dit, un jour de juin, va touche le bénéfice, fuck bouche le père et le fils. J'y repense et puis j'oublie. J'y repense et puis j'oublie. Ici y'a du silence et puis j'oublie. J'y repense et puis j'oublie. De la brillance des bijouteries. J'y repense et puis j'oublie.
« Samir Ahmad sur RFI avec ce titre « C'est la vie », extrait de son cinquième album intitulé « La vie est bien faite ». Barbara Cassin, le rap, c'est la manifestation évidente, éminente de l'influence de la langue française à travers le monde aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Est-ce que vous êtes une rappeuse? Est-ce que vous écoutez le rap? Du rap.
J'écoute, j'aimerais bien le danser aussi.
Et l'écrire?
L'écrire, je suis pas sûre d'en être capable.
Le français, langue internationale et européenne, puisqu'elle est la langue de la Cour européenne de justice, c'est ce que l'on découvre en venant à la cité de Villers-Cotterêts, puisque en fait, cette langue du droit est le thème de la dernière salle du parcours permanent que vous avez imaginé avec Xavier Nortes. Et peut-être que ce n'est pas inutile de le rappeler à quelques semaines, quelques mois des élections européennes.
Oui, c'est très important. Je pense que le droit est l'ossature même de ce qui peut faire l'Europe. L'une des ossatures possibles, à part la première qui était l'économie, le droit, c'en est une très ferme. Et en effet, il y a un droit européen qui se dit à la Cour de justice, à la Cour européenne de justice de Luxembourg. Et qui se dit donc en français et pas seulement, dans toutes les langues de l'Europe et en français éminemment, puisque c'est le moment où les juges se parlent entre eux et ils se parlent en français et sans interprète. Et puis, je pense aussi que la traduction est l'autre langue de l'Europe. La langue de l'Europe, disait Umberto Eco, c'est la traduction. Eh bien, c'est vrai. Le français, c'est la langue du droit en Europe. Et la vraie langue de l'Europe, la langue pour tout, c'est la traduction.
Et je ne sais s'il faut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, à la Cour européenne de justice de Luxembourg, on ne parle plus anglais. On ne parle pas anglais. Puisque l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, a quitté l'Europe.
Ah, oui, mais enfin, Malte parle encore... il y a encore de l'anglais. Simplement, il n'y a plus du globish, c'est-à-dire qu'on ne parle plus tous comme langue de communication en anglais. Ça n'est pas le cas. Il n'y a pas cette langue de communication rampante et universalisable dans le genre... langue sans autre...
Langue pauvre.
Langue pauvre, n'étant plus parlée, pas, n'étant maternelle de personne, on va dire. Un anglais ne parle pas globish, non plus.
Bon. Alors, sur ce fonctionnement de la Cour européenne de justice, Barbara Cassin, vous avez convié ce week-end à Villers-Cotterêts Jean-Michel Rachet, qui a longtemps travaillé comme juriste et comme directeur de cabinet.
La Cour de justice de l'Union européenne ne parle pas français. Je dirais même pas qu'elle travaille en français. Je dirais que depuis l'origine, depuis la Cour CECA de 1951, la Cour de justice délibère en français. Il y a des raisons, je dirais, techniques et juridiques, et maintenant économiques à ce fait. Et le fait qu'on utilise une langue unique de délibérer, qui en l'occurrence est le français, permet de sauvegarder un système génial, unique au monde, qui fait que tous les cas sont apportés dans n'importe quelle des 24 langues officielles de l'Union européenne, qui seront les cas, les pièces de procédure seront traduites vers le français pour qu'on puisse délibérer en français, les juges délibéreront dans une salle sans interprète, et quand ils auront rendu leur arrêt, on retraduira vers toutes les langues officielles de l'Union, notamment la langue de procédure, cet arrêt, si bien qu'il sera disponible pour tous les justiciables et pour tous les juges et professions juridiques de l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est là que le système est génial, parce qu'il permet d'avoir l'ensemble de la jurisprudence dans toutes les langues.
Mais est-ce que cela produit, du coup, du droit français ?
Pas du tout. Ça ne produit pas du droit français. Ça produit du droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne, c'est un droit autonome, qui s'est construit au fil des années, donc depuis les années 50, un droit autonome qui développe des concepts de droit autonome qui, même si parfois, parce qu'on va délibérer en français, sont écrits en français, ne sont pas du droit français. Ça serait un contresens de le penser, ça serait même une faute. Et ça serait d'ailleurs tout à fait nuisible au développement de ce droit autonome.
Les eurocrates, puisque vous vous êtes définis comme tels, et les 2000 et quelques juristes linguistes qui travaillent à la Cour européenne, connaissent-ils l'histoire de Villers-Cotterêts ?
Alors, beaucoup connaissent l'édit de Villers-Cotterêts et beaucoup ont l'équivalent du Villers-Cotterêts dans leur propre État. Donc, nous sommes toujours hyper auto-centrés, hein, mais il y a dans d'autres États des histoires similaires où la langue, et notamment par le droit, a été reconnue comme un des droits fondamentaux du citoyen pour qu'on comprenne les droits qui lui étaient conférés, qu'il puisse en jouir et qu'il puisse être condamné, le cas échéant, s'il en faisait mauvais usage. Donc oui, cet édit est connu, d'autres sont connus aussi, et les eurocrates, beaucoup parlent beaucoup de langues, ce qui est très étonnant pour les Français qui, généralement, parlent avec déjà beaucoup de difficultés la leur.
Éloge de la traduction, du plurilinguisme et du principe selon lequel le droit en Europe dit et sauvegarde aussi l'importance de la langue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, Barbara Cassin ?
Oui, bien sûr. Je pense que, justement, c'est pour ça que la phrase de Umberto Eco, « La langue de l'Europe, c'est la traduction », me paraît une phrase géniale. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe est unie dans la diversité et les deux termes sont fondamentaux. Il faut la diversité et la diversité des langues pour arriver à, comme dit Jean-Michel Rachet, quelque chose comme un droit autonome. Si je prends, même s'il s'exprime en français, par exemple le terme de « épouse » ou le terme de « travailleur » n'aura pas exactement le même sens que dans le droit français. La quatrième femme, par exemple, d'un citoyen venu en France et jugé en France,
issu d'un pays où la polygamie est autorisée,
eh bien, on l'appellera épouse, femme, et on ne l'appellerait pas comme ça dans le droit français. Ou bien un travailleur, je mets tous les guillemets que vous voudrez, au noir, sera un travailleur dans le droit européen.
Et donc, qu'en France, un travailleur au noir, c'est un clandestin.
C'est un clandestin.
Et aucun de ses droits de travailleur n'est reconnu.
Absolument.
Mais alors, est-ce que ça ne plaiderait pas, du coup, pour une langue unique en Europe ?
Non. Pourquoi ? Ça plaide pour... une langue unique en Europe... Je dirais que ça plaide pour un concept qui se traduit en langue. Et certains concepts sont différents. Par exemple, le concept de travailleur ou de femme n'est pas le même que celui du droit français. Voilà. Mais il est déclinable dans toutes les langues et décliné dans toutes les langues.
En tout cas, la loi européenne est supérieure à la loi française dans ces cas-là, quand il y a un recours auprès de l'Europe.
Oui. Enfin, là, vous savez...
Là, c'est une affaire de juriste.
C'est une affaire de juriste et je ne voudrais pas dire oui tout simplement.
Parce que c'est peut-être plus compliqué que cela.
Je le crains.
Alors, le français est la langue du droit en Europe. Ce droit dit aussi l'importance de la langue. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Barbara Cassin, il y a cette loi Toubon, en 1994, 2 ans après le traité de Maastricht. Le ministre de l'époque, ministre de la Culture de l'époque, donc Jacques Toubon, qu'on a un peu parodié en le surnommant Mr. Allgood, Toubon Allgood, faisait voter une loi qui vise à obliger l'usage du français dans les actes de la vie quotidienne, et notamment on a beaucoup évoqué la publicité à propos de cette loi. Alors, à l'époque comme aujourd'hui, il était présent à Villers-Cotterêts ce week-end, il défend sa loi sur un principe d'universalisme et d'égalité.
Il est certain que l'ordonnance de Villers-Cotterêts a lancé un mouvement qui est le mouvement d'installation du français dans notre pays et la révision constitutionnelle de 1992, d'abord sur l'article 2 de la Constitution, puis la loi de 1994 que j'ai faite et qui en est issue, sont dans cet héritage. Elle se situe simplement dans un contexte où on n'a plus à remplacer le latin par le français, mais on a à écrire et parler français au lieu de parler ou d'écrire d'autres langues, et en particulier l'anglais qui s'est répandu partout. Et la volonté de ce texte, la loi de 1994, c'est de dire que, dans un certain nombre de circonstances, l'égalité de tous, la liberté implique que l'on puisse utiliser une langue qui est parlée et comprise par 99,9% des personnes qui vivent en France.
Jacques Toubon et sa loi, toujours en application depuis maintenant 30 ans. Barbara Cassin, l'académicienne que vous êtes, pensez-vous qu'elle est utile, qu'elle est toujours utile et qu'elle est, comme le dit Jacques Toubon, un peu l'héritière de Villers-Cotterêts ?
Oui, je pense. Et je pense qu'elle ne dit pas qu'on ne doit parler que français en France. Ça, c'est un vrai contresens. Elle dit qu'il faut qu'il y ait toujours au moins aussi du français. Et voilà.
C'est pour ça que souvent dans les publicités, il y a un slogan en anglais, il y a un petit astérisque
absolument.
Qui renvoie à la traduction en français.
Absolument. C'est-à-dire que le français est la langue de partage en France. Mais on sait aussi que, par exemple, l'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France. Deuxième langue de France. Et la DGLF-LF, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, soutient les langues de France, et pas seulement la langue française.
Donc le mouvement impulsé en 1539 par François Ier autour de cette langue française, qui met en place finalement une politique d'État autour de la langue, cette ordonnance, elle est en vigueur encore aujourd'hui. Il y a peu de lois écrites au XVIe siècle qui sont encore en application aujourd'hui.
Absolument. Eh bien celle-ci, oui. C'est vrai. C'est très important. Et c'est pour ça que la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, c'est un endroit qui hérite de cette magie. Il faut y aller.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne va-t-elle pas tout bouleverser ? Parce qu'on parle de loi, on parle de traduction, mais aura-t-on besoin de tout cela dans quelques années, sachant que les ordinateurs, maintenant, parlent toutes les langues ? Est-ce que c'est un défi pour vous, qui êtes si passionné par la langue ?
Oui, je crois que c'est un défi très important. Non pas du tout parce que l'ordinateur ou la traduction automatique va démettre les traducteurs. Je crois au contraire qu'il faut rendre l'intelligence artificielle plus intelligente, si on y arrive. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est la somme de tout ce qu'il y a sur le net. Elle est nourrie de ce que nous avons mis sur le net dans toutes les langues. Et beaucoup, beaucoup de ces choses ne sont jamais que du globish, du global English, un mauvais anglais. Ça traîne et c'est nourri comme ça. Donc il faut les nourrir un peu mieux. Ces bêtes-là. Et il faut les nourrir avec des difficultés à prendre en compte. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur la traduction, enfin, je continue à travailler, à partir de la notion d'intraduisible, c'est-à-dire de non-superposabilité des langues. Quand vous dites bonjour, vous ne dites pas tout à fait salam. Vous ne souhaitez pas la paix. Vous souhaitez juste une bonne journée. Vous ne souhaitez pas tout à fait, comme disaient les Grecs, caérer, de jouir. Bon. Donc, à chaque fois, il faut comprendre ces différences-là. Et évidemment, il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle les comprenne. Si vous ne lui inculquez pas, c'est ça, enfin, le projet de comprendre la difficulté, de partir de la non-superposabilité, de partir de la différence. Voilà.
Donc il faut que l'Académie française et tous ceux qui écrivent ou parlent en français nourrissent la bête, comme vous dites. Pourrait être une planche de salut, pratiquement,
mais
pour la langue.
Mais pas seulement ceux qui parlent français, tous ceux qui parlent en langue. Je pense que l'intelligence artificielle, elle doit travailler en langue. Et donc, elle doit traduire mieux à cause de ça.
C'est toujours votre leitmotiv.
Plus d'une langue.
Plus d'une langue, qui est d'ailleurs gravée sur votre épée d'académicienne.
Absolument.
Et vous la regardez souvent, cette épée ?
Non. Non, mais cette phrase, elle est dans ma tête.
Merci beaucoup, Barbara Cassin. Et j'encourage tout un chacun à aller à Villers-Cotterêts. C'est à 50 minutes de Paris. Et puis aussi à lire le livre d'une langue, ouvrage collectif et illustré que vous avez coordonné pour l'ouverture de la cité et qui est édité aux éditions du Patrimoine. Très beau livre. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Chloé Gomez. Laura Pinto à la réalisation. À demain.